Je ne ferai qu'une lecture ce matin dans l'Évangile selon Luc, les versets 51 à 58. Comme arrivaient les jours où il allait être enlevé, Jésus prit la ferme résolution de se rendre à Jérusalem et il envoya devant lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains afin de faire des préparatifs pour lui. Mais on ne l'accueillit pas parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Quand ils virent cela, les disciples, Jacques et Jean, dirent « Seigneur, veux-tu que nous disions au feu de descendre du ciel pour les détruire ?» Jésus se tourna vers eux et les rabroua. Et ils allèrent dans un autre village. Pendant qu'ils étaient en chemin, quelqu'un lui dit « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui dit « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. » Esprit de Dieu, ces paroles sont source de vérité. Fais-nous grandir dans la vérité. Voilà, on en parlait déjà la semaine dernière, c'est une vieille histoire. Les Samaritains et les Juifs ne s'aiment pas. Vous vous souvenez que les gens de la Judée, donc dans le sud d'Israël, les descendants des exilés à Babylone, attachés au culte unique de Jérusalem et farouchement nationalistes, méprisent les Samaritains, qu'ils avaient repoussés, sortis de Jérusalem, qu'ils avaient repoussés vers le nord. Ils considèrent d'ailleurs tous les gens du nord un peu comme des païens. Et de leur côté, ceux de Samarie, donc ceux-là descendants des non-exilés, de ceux qui n'avaient pas été déportés à Babylone et qui étaient restés en Israël pendant le temps de l'exil de ces Juifs du Sud, eux étaient restés attachés au temple du mont Garizim. Et ils traitent évidemment ceux du Sud d'hérétiques. Et ces mêmes hérétiques d'ailleurs qui avaient détruit le temple du mont Garizim un siècle avant notre récit. Mais pour d'autres raisons, c'était déjà la haine bien avant l'exil. Eh bien, croyez-le ou non, 2500 ans plus tard, il n'y a plus beaucoup de Samaritains, et pourtant les sentiments ne se sont guère améliorés. Pour chacun des deux groupes, l'autre est un traître, la religion de l'autre est une hérésie, une trahison. Jésus et les disciples, eux, sont galiléens, et bien qu'ils habitent plus loin au nord, ils sont juifs. Et d'ailleurs, ils sont justement en route vers Jérusalem, le centre de la foi juive, et pour ça, bien, il faut traverser la Samarie, le fameux pays détesté, impur, et il faut bien manger, il faut bien dormir pendant tout ce trajet. Mais tout bon juif, obligé de traverser la Samarie, n'aurait jamais eu la moindre idée d'aller demander l'hospitalité à une famille samaritaine. Mais Jésus, lui, y pense. Et il envoie ses disciples. Alors ce qui devait se passer arrive, on ne veut pas d'eux, expressément parce qu'ils sont juifs et qu'ils se rendent à Jérusalem. Et ça, c'est le cadre du récit. On pourrait presque dire que c'est le prétexte du récit. Alors je vous propose de ne pas trop nous attacher ce matin à ce qui pouvait opposer ces deux peuples israélites. Peut-être n'extrapolons pas non plus sur ce qui oppose aujourd'hui tous ceux qui ont des prétentions sur cette terre-là, là-bas. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans notre récit aurait très bien pu se passer ailleurs et sous quantité d'autres prétextes. « Seigneur, veux-tu que nous disions au feu du ciel de descendre et de les détruire ?» Vous vous rendez compte que c'est les disciples de Jésus qui disent ça? Cette soif de vengeance complètement disproportionnée, énorme et remplie de bonne conscience en plus, ce serait pour la bonne cause. Pas même la mise en œuvre de la loi du talion, prescription sage qu'on trouve dans la loi de Moïse comme dans beaucoup d'autres codes civils de l'Antiquité. Aujourd'hui, il est de bon ton de trouver cette loi un peu sauvage, hein, œil pour œil, dent pour dent. Pourtant, eh bien, peut-être que les humains auraient été quand même bien inspirés de s'en contenter et de s'y limiter. Car ce que nous faisons habituellement, c'est ce que Jacques et Jean veulent faire, non pas rendre à la hauteur du préjudice subi, mais détruire totalement ce qui est perçu comme un agresseur. Alors passons. Mais entendons quand même ce qu'il y a à entendre, par exemple, noter quelques attitudes d'esprit de Jésus qui pourraient inspirer notre méditation. La première, c'est que malgré le fait que Jésus doit dormir à la belle étoile très régulièrement, et c'est peut-être même son quotidien, hein, le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête, eh bien, il prend quand même l'initiative de partager un moment avec les Samaritains. Il veut leur donner la chance de la rencontre avec le Messie qui passe dans leur village, parce que justement, lui ne méprise pas bêtement ce peuple à cause d'une vague dispute de leurs lointains ancêtres. Il demande même, si a priori il n'en attend rien, à ces Samaritains de s'ouvrir, de les accueillir. Il veut juste leur donner là l'occasion de sortir eux-mêmes de leurs préjugés et de favoriser la rencontre. Alors j'aime, moi, cette ouverture d'esprit du Christ qui invite ceux qui le suivent à dépasser leurs propres préjugés, leurs propres haines, leurs propres idées arrêtées, qui sont un pesant héritage, d'une manière générale, dont Jésus cherche à les libérer. Une autre attitude intéressante de Jésus, après ce refus des Samaritains et le désir de destruction des disciples, c'est qu'il passe tranquillement son chemin, sans commentaire, sans réaction, sans colère, sans agacement. Il passe son chemin, il avance, simplement, le texte nous dit, ils allèrent dans un autre village. Il a proposé sa présence, elle n'a pas été reçue, il passe sans insister. Et de l'attitude colérique et disproportionnée des disciples, avec lesquels nous avons tant en commun, nous sommes invités à méditer pour nos vies sur celle paisible, tranquille, sereine de Jésus. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Justement, quiconque veut construire quelque chose en regardant en arrière ne construit pas pour le royaume de Dieu. Si tu considères ton prochain à partir de sa vie passée ou celle de ses ancêtres, tu ne travailles pas pour élargir et pour agrandir le royaume, pour rendre le monde meilleur, c'est comme ça qu'on pourrait traduire. Au contraire, tu travailles pour l'appauvrir. Jésus enseigne qu'on ne peut être utile pour le royaume de Dieu que si on regarde en avant. Car c'est l'avenir qui est important. C'est devant nous que se tient l'avenir à construire. C'est logique, si nous avons un passé éventuellement commun, l'avenir est vierge et nous pouvons le construire ensemble. Ce que l'on doit construire, de toute façon, est forcément devant nous, en face de nous. Ce qui est derrière est déjà passé et on ne peut plus rien faire pour le changer. Jésus se désolidarise ainsi de tous ces croyants qui croient bien faire et qui passent leur temps à idéaliser la première église, l'église primitive, cette église naissante qu'on trouve dans les évangiles. Même si, quand on y regarde de près, elle n'a vraiment rien d'idéal. Soit ils passent leur temps à ça, soit à se lamenter sur le passé, sur les fautes qu'ils ont commises, ou surtout que celles que les autres ont commises. Ceux qui insistent sur les conséquences qu'elles peuvent avoir, sur la nécessité du repentir, sur la nécessité de changer de sentiment, de changer d'attitude. Jésus semble dire à ses disciples, laissez au passé le soin du passé. Votre vie ne sera pas jugée sur la manière dont vous vous serez lamenté sur le passé, mais sur la manière dont vous allez participer à la construction de l'avenir. Il sait bien qu'il ne suffit pas de vouloir oublier le passé pour que ça se fasse. Il sait tout cela, et c'est pourquoi il proclame très fermement le pardon de tous les péchés, sans exception. Il nous libère de notre passé. Jésus prétend que Dieu se charge de notre passé pour nous permettre d'avancer sereinement, librement, vers l'avenir. Dieu se charge de gérer notre passé et nous rend responsables du futur que nous allons construire. Pour ceux dont le passé est trop lourd à porter, c'est-à-dire pour la plupart des hommes, il leur propose d'opérer un transfert sur lui. Ils décident donc d'assumer le poids de leurs fautes jusqu'à en mourir. Pour que les amis de Jésus puissent se sentir libérés de leur passé, c'est lui qui le prend en charge et il en meurt. Mais cela n'a vraiment d'effet que si on accepte de se déculpabiliser de son passé et de regarder résolument vers l'avant. Alors ceux qui acceptent de relever ce défi peuvent alors entreprendre de construire avec l'Esprit de Dieu des choses qui sont porteuses de vie. Ceux qui n'acceptent pas cela ne sont pas bons pour le royaume de Dieu. Ou pas encore. Parce que celui qui n'accepte pas ne pourrait pleinement construire son avenir que s'il est libre d'exercer à nouveau sa faculté d'agir et sa faculté d'aimer. Sur les petites feuilles que vous avez devant vous, il y a une citation d'Aldous Huxley, que j'aime bien, qui dit que l'expérience n'est pas l'événement, mais ce que nous en faisons. L'expérience n'est pas ce qui arrive à quelqu'un, mais ce que quelqu'un fait avec ce qui lui arrive, quelque chose comme ça. Autrement dit, ce que nous invite à faire Jésus dans ce passage, ce n'est rien d'autre que de toujours choisir à faire le meilleur de ce qui nous arrive, à faire le meilleur de ce qui nous est arrivé. Vous vous souvenez du Dieu libérateur, il y a quelques semaines de ça, de celui qui nous dit qu'il ne veut pas autre chose que notre libération de nos passés, de nos blessures, de nos illusions, de nos erreurs, de nos échecs, de nos déceptions, de nos préjugés, que sais-je, et de tout ce qui, d'une manière générale, nous empêche d'avancer sereinement dans notre existence, dans notre vie, et du coup aussi de participer à construire efficacement le royaume de Dieu, à rendre le monde meilleur. Eh bien, c'est le porte-parole de ce Dieu libérateur qui nous met en garde pour notre bien. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Ainsi, libéré du passé et du pesant pour avancer et tracer le sillon droit vers l'avenir, nous pouvons avancer avec confiance. Parce que quand on saisit les poignées de la charrue pour tracer le sillon de la vie que Dieu nous propose, l'avenir que nous construisons avec Dieu est alors porteur de la vie qu'il promet. Il a pour but aussi l'amour du prochain et donc son mieux-être. Ainsi, nous sommes toujours destinés à avancer sereinement à la rencontre d'un avenir heureux, habité par Dieu. Mais voilà, il y a la réalité, et on pourrait se dire que tout ça relève un peu d'une utopie difficilement accessible et réalisable quand on voit l'évolution de notre monde. C'est pourquoi Jésus a bien compris qu'il y a une notion indispensable pour nous aider à avancer. Ce qu'il nous demande d'intégrer, c'est une autre manière de voir les choses que nous appelons l'espérance. Parce que l'espérance nous demande de refuser à croire à un avenir qui sera uniquement la répétition du passé avec les mêmes échecs, les mêmes contraintes, les mêmes rivalités, et que les générations futures seront dominées de la même manière que celle du passé, par des castes de privilégiés, de ceux qui sont plus chanceux, plus riches, plus intelligents, que sais-je, que les autres. L'espérance nous invite à croire que l'indifférence au sort des autres ne sera pas toujours la règle générale, et que les méchants, que les égoïstes, ne seront pas toujours les plus nombreux. L'espérance consiste à croire qu'à force de se déverser sur le monde, l'amour tel que Jésus nous l'a enseigné finira bien par gagner du terrain et triompher dans le cœur des hommes. L'espérance consiste à regarder aussi, bien au-delà de l'Église chrétienne, tout ce qui se fait et tout ce qui s'entreprend de manière positive, avec optimisme et avec amour, parce qu'une partie des femmes et des hommes qui les mettent en œuvre est habitée par l'Esprit de Dieu, et que cette puissance de Dieu qui est en eux finira évidemment par influencer ce sur quoi ils agissent. Et plus le nombre des humains augmente sur notre planète, plus le nombre de ceux qui sont habités par l'Esprit de Dieu augmente. Et du coup, on peut peut-être renoncer à croire à la fatalité selon laquelle le côté négatif des choses sera toujours plus efficace que le côté positif. Parce que d'abord, si ça c'était vrai, il y a longtemps que l'humanité aurait cessé d'exister. Ainsi, quel qu'il soit, et qui qu'il soit, celui qui est habité par l'Esprit que Dieu met en lui peut saisir avec confiance les poignées de la charrue, parce qu'il sait que les expériences de son passé ne peuvent servir qu'à lui permettre de regarder l'avenir avec intérêt. Il sait aussi qu'en dépit des apparences, Dieu agite au cœur de l'humanité pour que chaque jour, des humains, souvent invisibles et anonymes, soient visités par son esprit et se mettent à faire ce qu'il souhaite qu'ils fassent. Dieu s'appuie sur des gens qui construisent leur avenir en mettant en pratique toutes les dimensions du royaume dont Jésus a ébauché les contours dans son évangile. Il croit qu'il se réalisera un jour par les mains entreprenantes de tant d'hommes et tant de femmes dont nous sommes. Amen.